J'ai évoqué la semaine dernière la vie de Brunelleschi, qui est un texte que l'on s'accorde généralement à attribuer à Manetti. Manetti étant un biographe qui a par ailleurs écrit sur la vie d'hommes célèbres de Florence, dans lesquels il y a également un passage important sur Brunelleschi. Et ces deux textes, ce passage et le précédent, sont tellement semblables que cette attribution à Manetti semble aller de soi. Enfin, il y a encore aujourd'hui une incertitude qui sans doute demeurera à moins de nouvelles découvertes. Alors, j'ai cité déjà un certain nombre de faits marquants dans la biographie que Manetti consacre à Brunelleschi, en particulier l'absence de la chapelle des Pazzi, qui constitue en soi un problème intéressant, parce que cela permet soit de dater différemment le texte de cette biographie, soit encore de considérer que, pour des raisons idéologiques, les Pazzi ne sont pas mentionnés. Alors qu'ils sont mentionnés dans le texte des biographies d'hommes célèbres de Manetti. Aujourd'hui, je voudrais revenir à un des passages de cette vie de Brunelleschi, dans lequel l'auteur s'adresse à un interlocuteur qui est sans doute Girolamo Benevieni, B-E-N-E-V-I-E-N-I. Et il est intéressant de voir que dans ce passage, l'auteur signale l'épitaphe qui se trouve à Sainte-Marie de la Fleur, à Florence, et le buste de Brunelleschi. Donc ce sont les deux aspects de son portrait qui sont en quelque sorte inclus dans la biographie. En outre, l'auteur montre qu'il veut donner le plus d'informations possibles qu'il détient sur Brunelleschi, non seulement issu de ces deux témoignages, que sont évidemment un portrait en buste et une épitaphe, mais aussi de renseignements qu'il a pu glaner sur cet artiste, sur cet architecte. Alors, voici le passage en question. Et parce que je serai capable de vous satisfaire davantage que je ne l'ai fait parfois en répondant à vos questions relatives à l'origine de cette manière de bâtir appelée Alla Romana ou Alla Antica, et par qui elle a été ramenée à la lumière, puisque les constructions antérieures étaient tudesques, appelées modernes. Vous avez là déjà ces topoi habituels dans la rhétorique de cette époque, à savoir quelque chose qui a été ramené à la lumière, donc qui a. Cette métaphore par laquelle j'avais, pour ainsi dire, commencé ce cours à propos de Pétrarque. Et en même temps, nous avons ici une terminologie assez importante, assez intéressante, de caractériser une manière de bâtir à l'antique ou à la romaine, qui est en quelque sorte, qui ressuscite d'une certaine manière. Et les constructions immédiatement antérieures à Brunelleschi sont des constructions tudesques ou modernes. Ce moderne désignant bien évidemment l'architecture médiévale, tout simplement. C'est une façon de caractériser l'architecture la plus récente, ce qui nous fait évidemment aujourd'hui réagir à ce terme moderne qui va bientôt caractériser bien d'autres choses. Je poursuis la lecture. Suivant la tradition des hommes marquants de Florence, Filippo, Brunelleschi donc, apprit à lire et à écrire très jeune, de même qu'à se servir de l'abaque, de l'instrument de mesure. Il apprit aussi le latin, peut-être parce que son père, qui était notaire, pensait qu'il s'engagerait sur la même voie, depuis que peu d'hommes à cette époque savaient le latin, sauf s'il se destinait au métier de médecin, de notaire ou de prêtre. Depuis l'enfance, Il montrait un intérêt naturel pour le dessin et la peinture, et ses créations étaient très plaisantes. C'est pour cette raison qu'il décida de devenir orfèvre. Dans l'opinion des connaisseurs, il est insurpassable dans l'art de la sculpture, particulièrement celle des crucifix. Selon les témoignages de ses contemporains, il a créé d'autres très belles œuvres en bronze et en d'autres matériaux. Cependant, tout ce que j'ai mentionné, je l'ai vu. Il y a ici l'insistance sur le témoignage direct, le témoignage oculaire et l'expérience sensible de l'œuvre. Donc il ne parle pas ici, dit-il, de ce qu'il a lu, mais de ce qu'il a bien vu de ses propres yeux. Filippo fut chargé de travailler comme architecte, concepteur et comme maître d'œuvre, et c'est ce qu'il fit. On notera aisément qu'il n'appréciait pas les détails d'architecture en usage à son époque. Il les fit d'une manière différente, mais la manière qu'il acquit, après avoir vu les anciens bâtiments des Romains, n'était pas encore sienne. Donc il y a ici une distinction très claire entre les modèles qu'il a autour de lui, c'est cette architecture moderne ou tudesque, c'est-à-dire en fait, entre guillemets, gothique, médiévale, comme le dit implicitement Manetti. Mais en même temps, s'il s'inspire des anciens bâtiments des Romains, il dépasse ce modèle. Ça, c'est extrêmement intéressant, cette manière de bien insister sur le fait que cette appropriation n'en fait pas pour autant une architecture qui fut sienne. Il va la dépasser. Puis, il aborde la question de l'invention de la perspective. Je saute ici un passage. Et puis, tout en considérant la renommée des maîtres sculpteurs bronziers, en incluant les Florentins, et dans le but de désigner celui qui était le meilleur, ils décidèrent, c'est-à-dire les habitants de Florence, après de nombreuses discussions entre eux et après avoir pris conseil auprès des citoyens et des artisans, que les deux plus remarquables étaient Florentins et que ni à Florence ni ailleurs ils n'en trouveraient de meilleurs. L'un et l'autre étaient les susnommés Filippo Brunelleschi et Lorenzo di Bartolo Ghiberti. Donc il y évoque ici le concours de 1401 pour les portes du baptistère, pour lequel concours il y avait un thème imposé, celui du sacrifice d'Isaac, et que les deux morceaux de concours qui ont été retenus à égalité sont ceux de Brunelleschi et de Ghiberti. Puis Brunelleschi a abandonné et c'est Ghiberti qui a poursuivi l'œuvre. Nous en avons parlé. La réputation de Filippo n'était pas encore très étendue lorsqu'il était un jeune homme et son esprit était fixé sur les actes plutôt que sur l'apparence. Cependant, lorsqu'ils virent son œuvre, ils furent tous très étonnés et émerveillés devant les problèmes qu'il avait posés lui-même. L'attitude, la position des doigts sur le menton et l'énergie d'Abraham et le vêtement, l'aspect, la délicatesse de la figure entière du Fils, la tunique de l'ange, son aspect, ses gestes et la manière dont il saisit le bras, l'attitude, l'aspect et la délicatesse de la figure du personnage tirant une épine de son pied et le personnage penché pour boire, combien ces personnages sont complexes et à quel point ils remplissent leur rôle, il n'y a pas un membre qui ne soit vivant. Les types d'animaux et leur excellence, de même que tous les autres éléments et la composition de la scène comme un tout. La description que donne ici Manetti du relief que nous aurons l'occasion de voir ultérieurement est une description à la fois relativement détaillée puisqu'il relève pratiquement chaque protagoniste de la scène. Il en donne quelques caractéristiques élémentaires, mais en même temps, vous voyez combien aussi cette description est répétitive, hein, en parlant de la délicatesse, en parlant de reprises, en parlant de la façon dont ces personnages sont évoqués et remplissent, dit-il, leur rôle. Ce sont là des conventions rhétoriques qui ne rejoignent pas véritablement une description de ce relief. Enfin, il y a l'évocation, pardon, excusez-moi, oui, voilà, je poursuis, pardon. Donc ça, nous l'avons lu à l'instant, voilà, non, pardon, je reviens en arrière, il y a ici un saut de texte, bon. Il y a ensuite l'évocation, ça je vous ai dit tout à l'heure, je sautais ce passage, mais je voudrais quand même en dire quelques mots, de l'invention rationnelle de la perspective géométrique. En fait, la vie de Brunelleschi par Manetti nous offre le premier récit relativement complet de cette invention qu'on attribue à Brunelleschi. C'est le premier récit complet, source sur laquelle, d'ailleurs, on s'appuie généralement pour reconstituer l'histoire de cette invention, de cette découverte de la perspective géométrique à l'époque moderne. Alors, simplement, dans ce texte, Manetti nous apprend d'abord que la construction géométrique à point de fuite central est une partie de la science, j'insiste sur ce terme, une partie de la science qui rend avec proportion et rationalité les diminutions et les accroissements de tout ce qui, de près ou de loin, apparaît aux yeux humains. C'est une façon de décrire très claire la question de la perspective, c'est-à-dire au fur et à mesure que les personnages s'éloignent dans le plan du tableau, ils sont de plus en plus petits. Ainsi, toute figure, toute chose semble de la taille qui convient à telle ou telle distance. Et cette description qu'il donne de cette invention est relativement cohérente avec ce que nous savons par ailleurs, ce que nous pouvons reconstituer de l'expérience qu'a faite Brunelleschi à partir d'une position de l'observateur qui est placée derrière la porte de la cathédrale du Duomo de Florence et qui regarde le baptistère. Et à partir de ce point de vue, le baptistère a été relevé, en quelque sorte, dont on a fait un relevé dans l'espace, non plus simplement avec les deux dimensions, mais aussi avec la troisième dimension, en tout cas avec l'illusion de la troisième dimension. J'insiste juste encore sur un point qui conclut ce passage sur la perspective, où Manetti dit ceci à propos de Brunelleschi. Bien qu'il prévalût en plusieurs domaines, domptant son siècle et les temps qui suivirent, personne ne le vit se vanter ou sermonner avec mépris sur quoi que ce fût, ni souffler un mot prétentieux. Mais il se montrait tel qu'il était quand l'occasion le réclamait. Jamais il ne se mettait en colère, à moins qu'il ne subît un affront ou une injustice, et il était aimable avec les amis, se plaisant aussi bien à conseiller ceux qui le méritaient qu'à apprendre volontiers à tous ceux qui, ayant quelque aptitude, lui paraissaient le désirer, et il était en toutes circonstances fort averti et avisé. Pourquoi j'insiste sur ce passage ? Parce que, en fait, il s'agit d'un commentaire moral du comportement de l'artiste au moment même où il parle de l'invention de cette science particulière de la perspective. C'est comme s'il fallait à Manetti cette occasion pour décerner en quelque sorte plus qu'un brevet de bonne conduite, une sorte d'éloge du comportement parfait, idéal, nous dirions aujourd'hui de gentleman, de Brunelleschi. L'association des deux, c'est-à-dire à la fois de l'éloge de l'invention scientifique de la perspective et l'éloge de la personnalité morale de l'artiste, je crois, ne sont pas par hasard associés à ce point du texte, parce que dans l'esprit de Manetti, il y a évidemment une corrélation évidente entre la personnalité d'un individu, d'un artiste, et la maîtrise géniale qu'il peut faire de telle ou telle science, comme celle de la perspective, ou de telle ou telle forme d'art. Justement, cette liaison si étroite ici, entre ce qu'est l'homme et ce qu'est la nature même de son invention, quelqu'un va l'introduire d'une manière systématique dans sa réflexion, dans sa pensée et dans son œuvre, c'est Giorgio Vasari. Je vais donc commencer aujourd'hui la présentation à l'aide de quelques textes ontologiques de la personnalité de Giorgio Vasari. Alors, le nom de Giorgio Vasari, je pense, est connu à tous ceux qui s'intéressent tant soit peu à l'art. Pourquoi ? Parce qu'il est habituellement mentionné comme le véritable premier historien de l'art. C'est le premier qui aurait écrit une histoire de l'art. Vous voyez, je mets immédiatement des précautions oratoires à ce que je dis, parce que nous allons voir que c'est une histoire de l'art tout à fait spécifique, qui n'a rien de comparable avec ce que nous pouvons aujourd'hui attendre d'une histoire de l'art. En tout cas, il est sacré premier historien de l'art, et je dirais que ce sacrement ne lui a pas été accordé par hasard. Il a lui-même largement contribué à promouvoir sa propre image d'historien des artistes de Florence, d'historien d'artistes qui auraient constitué le sommet absolu de l'art moderne, à savoir Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange, Michel-Ange étant l'incarnation de la perfection. De cette manière, Vasari nous semble déjà avoir écrit un livre qui est une sorte de téléologie, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il annonce des événements qui ont déjà eu lieu en montrant que ces événements qui ont déjà eu lieu étaient annoncés eux-mêmes par toutes sortes de précédents et que l'aboutissement naturel de l'histoire de l'art, c'est-à-dire cette fois du développement artistique, c'est Michel-Ange. Giorgio Vasari vit de 1511 à 1574, et la publication de son livre se situe, on peut dire, au moment culminant de sa maturité, 1550. Son livre, ce sont les vies des plus excellents peintres, architectes et sculpteurs, ouvrage qui existe aujourd'hui en traduction, qui existe aujourd'hui, enfin, qui n'est plus dans le commerce malheureusement, en traduction complète, mais qui existe en traduction complète dans toutes les bibliothèques, traduction complète due à une équipe qu'avait réunie André Chastel au moment où il enseignait au Collège de France. Alors, je voudrais commencer la présentation de Giorgio Vasari de la manière suivante, par un essai que sur lui a publié en 1930 le grand historien Erwin Panofsky. Panofsky a écrit un essai assez remarquable et qui est devenu une sorte de référence historiographique qui s'intitule « Le feuillet initial du libro de Vasari ou le style gothique vu de la Renaissance italienne ». Le feuillet initial du libro de Vasari ou le style gothique vu de la Renaissance italienne. Le titre même de l'essai contient tout de suite toute la problématique, à savoir, il y a à la Renaissance italienne un regard particulier qui est porté sur le style gothique. Et c'est dans l'œuvre de Vasari, qui est multiple, je vais vous en dire quelques mots, que Panofsky pointe en quelque sorte ce regard, cette distance historique. Le libro de Vasari, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un recueil de dessins que Vasari collectionnait, de dessins italiens qu'il collectionnait et qu'il collait sur des feuilles de papier en les encadrant et en y marquant généralement le nom de l'artiste auquel il pense à propos de telle ou telle image. C'est une sorte de mise en page dans laquelle Vasari apporte un élément personnel, puisque lui-même étant aussi peintre et dessinateur très habile, il invente toute forme de cartouche, toute forme d'ornement pour encadrer ses dessins. Donc, ce feuillet initial, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc la première de ces pages de dessins encadrés, dont parle ici Panofsky, c'est ce qui ouvre ce recueil du collectionneur Vasari. Donc Vasari apparaît déjà comme une personnalité très complexe, auteur d'un livre qui est devenu une sorte de paradigme de l'histoire de l'art, d'une certaine histoire de l'art, Lévy, j'appellerai cela Lévy dorénavant, auteur d'une, enfin, collectionneur important, c'est aussi une façon de marquer sa personnalité, architecte et peintre de surcroît. Alors Panofsky analyse dans cet article la conception qu'avait Vasari de l'histoire. On voit en effet ce phénomène très intéressant pour notre étude comparée de l'histoire de l'art et de l'histoire, ou plus exactement de la façon dont les hommes qui s'intéressent aux artistes vont emprunter, parfois même calquer, mais parfois aussi prendre leur distance vis-à-vis de l'histoire elle-même, des historiens eux-mêmes. À partir du XVIe siècle et tout au long encore du XVIIe, on peut dire qu'il y a une évaluation de l'architecture gothique dans le milieu italien. Et on voit peu à peu que les événements qui sont racontés dans ces ouvrages sont interprétés selon leur propre temps. Leur propre temps. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du gothique, qui est plus ancien de 1, 2, 3 siècles, comme uniquement à partir d'un point de vue actuel, du point de vue du XVIe siècle, du XVIIe, mais on les juge par rapport à l'époque qui les a produits, ces œuvres. Donc il y a là une conscience historique tout à fait nouvelle. Ça, c'est très intéressant. On les juge par rapport à leur temps. Et vous allez voir qu'il y a de cela dans le jugement que Vasari lui-même porte sur le gothique. Et Panofsky met en évidence quelque chose dont j'ai déjà parlé à propos d'autres auteurs, mais qui est évidemment qu'il est très important de reformuler. Il dit que chez Vasari et ses contemporains apparaissent en réalité deux principes hétérogènes qui commandent la conception de l'histoire. À la fois un principe selon l'histoire de l'art et un autre selon la théorie de l'art. Ce sont deux choses parfaitement différentes. L'histoire de l'art est faite à partir des œuvres, des faits artistique, ou si vous voulez, l'œuvre d'art considérée comme un fait par l'historien, ce sont exactement la même chose, et les mêmes choses. Et d'autre part, il y a la conviction que, en fait, derrière l'évocation des œuvres d'art, il y a une théorie de l'art. Il y a une idée selon laquelle l'art doit être ceci ou cela. Donc, d'une part, l'histoire de l'art, c'est les faits en fonction de leurs liens dans le temps et dans l'espace, si vous voulez, Et d'autre part, il s'agit de les interpréter, ces faits, en fonction, cette fois, de leur valeur et de leur signification. Je dirais qu'un des accomplissements progressifs de l'histoire de l'art au cours des siècles sera d'essayer de faire la synthèse entre ces deux positions, celle de l'historien et celle du théoricien, ou celle de l'auteur attentif à l'histoire et celle de l'auteur attentif à la théorie. En tout cas, Vasari ne considère nullement ces deux principes comme antithétiques. Alors, on pourrait poursuivre un peu l'examen de cette hétérogénéité en disant, par exemple, que chaque phénomène singulier dans la vie des artistes doit être, aux yeux de Vasari, expliqué par ses causes et doit, à son tour, expliquer la suite, expliquer les effets produits par ce phénomène. Et puis, en même temps, en dehors de ce respect d'une stricte causalité, il y a le dogmatiste, Vasari le dogmatiste, qui croit en une perfecta regola dell'arte, c'est-à-dire en une règle parfaite de l'art, en une règle de l'art. Il n'y a pas beaucoup de manières différentes de faire de l'art, selon Vasari. Alors, comment déjà écrire une histoire des artistes qui prend en compte cette exclusive, ce dogmatisme selon lequel il n'y a finalement qu'une façon de faire de l'art ? Eh bien, c'est fatalement, cela nous vient tout de suite à l'esprit, en traçant une voie royale à un, deux ou trois artistes qui sont comme l'aboutissement normal de tout un ensemble de tentatives plus ou moins réussies dont tous les autres artistes qu'il décrit, qu'il mentionne, dont il raconte la vie, seraient les détenteurs au cours des temps. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que sa construction historiographique est une téléologie. Il fait l'apologie de ces artistes de son temps, en particulier de Michel-Ange, et en même temps, il raconte la vie de certains artistes qui, eux-mêmes, selon lui, cheminaient déjà vers la perfection, mais qui ont dû rester sur le bord du chemin parce que les circonstances propres de leur temps ne leur permettaient pas d'arriver à la perfection. Vous voyez comment l'histoire est mise au service, au fond, de cette téléologie. Comment les hommes, au fond, se livrent à autant d'expériences, de tentatives, et ne peuvent aboutir à ce point de perfection absolue que Michel-Ange aurait réussi à atteindre. Alors, ça fait que nous sommes dans un processus de relativisation, où on voit bien comment Vasari peut considérer le gothique comme un art. Il le mentionne, on en parlera plus tard. Il le mentionne en effet comme un art, mais il le juge très inférieur à ce que les architectes modernes peuvent produire, par exemple à ce qu'un Brunelleschi peut réaliser. Il dit lui-même dans le septième livre qu'il ne veut pas, dans le septième volume de l'édition Chastel, je vous donne de temps en temps cette référence pour ceux qui voudront s'y reporter, il dit lui-même qu'il ne veut pas juger les artistes de façon absolue mais relative. De façon absolue mais relative. On pourrait pousser la prudence de Vasari jusqu'à dire que s'il les avait jugés uniquement d'une façon absolue, il se serait contenté de raconter la vie de Léonard, de Raphaël et de Michel-Ange, point. ce qui est nouveau dans les Vitae de Vasari, c'est donc à la fois cette volonté de raconter les vies des artistes, je dis bien les vies des artistes, donc c'est une succession de biographies, tout en les regroupant, j'en parlerai dans un instant, de s'intéresser et aux hommes et aux œuvres, mais toujours en tentant d'expliquer essentiellement l'œuvre par l'homme. Il n'a pas cette attention, cette vigilance que, par exemple, Ghiberti consacre aux œuvres qu'il regarde et dont il parle. En même temps, comme Ghiberti l'a fait avant lui, Ghiberti est d'ailleurs une de ses sources, Vasari va, d'une certaine manière, opérer la synthèse de l'outillage théorique de l'art d'Alberti, de Ghiberti, de Léonard, et aussi, ce qui est très important, il veut traiter des trois arts, la peinture, l'architecture et la sculpture, sous leur dénominateur commun, qui est le dessin. En conférant une importance, je dirais, conceptuelle, centrale au dessin, il parvient à justifier la cohabitation au sein de son livre de, finalement, de toutes les formes d'art. Évidemment, il parle aussi à l'occasion d'orfèvrerie, de mosaïque, etc. Donc, ce n'est pas la peinture au sens strict et ce n'est pas la sculpture au sens strict non plus. Voici ce qu'il dit sur le dessin. Procédant de l'intellect, le dessin, père de nos trois arts, élabore à partir d'éléments multiples un concept global. Celui-ci est comme la forme ou idée de tous les objets de la nature, toujours original dans ses mesures. Donc la forme ou idée. Le dessin, c'est l'idée. C'est l'idée première. Et cette idée elle-même est le résultat d'une réflexion sur le monde, sur la nature. Donc le dessin conceptualise et projette ce qu'il y a de conceptuel dans le travail artistique sous une forme lisible et visible. Alors, je voudrais maintenant aborder un premier chapitre dans cette étude de Vasari que j'intitulerai « Biographie et histoire ». Au fond, d'essayer d'évaluer la définition de chacune de ces, de chacun de ces cadres historiographiques dans lesquels se déplace Vasari. D'abord, il faut rappeler, j'y reviendrai encore vraisemblablement plus cette année, l'année prochaine, au fait que l'humanisme de la Renaissance nous fait assister à une nouvelle définition de l'histoire. Enfin, il y a vraiment une nouvelle définition de l'histoire. On n'exige plus d'elle qu'elle soit exhaustive. On n'exige plus que l'histoire rapporte la totalité des faits. Et les annales, les chroniques médiévales cessent d'être un modèle opératoire. Désormais, l'historien doit trier, sélectionner les événements essentiels. Déjà, il y a cette part de subjectivité très importante dans le travail de l'historien. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel de ce qu'affirme l'historien de la Renaissance, ce qu'il affirme dans sa pratique. Il doit rechercher les causes des événements essentiels. Rechercher les causes, ça veut dire s'intéresser aux intentions humaines. à la limite, étudier même les intentions non réalisées. En fait, à cette époque, la catégorie du jugement devient absolument essentielle. Donc, s'oppose par là même à la chronique aux annales du Moyen-Âge, qui était censée être une sorte de rapport quotidien complet, de compte-rendu complet d'un règne ou d'un événement, d'une bataille, etc. Donc ici, nous sommes absolument à l'opposé de cela. Il y a, de la part de l'historien, nécessité d'un choix et d'un jugement, et ce choix et ce jugement doivent être évidemment légitimés. Et en fait, la compréhension du passé se veut compréhension de ce qui demeure permanent dans le changement. La compréhension du passé, par conséquent, n'est pas à opposer à l'intelligibilité du présent. La distinction entre le passé et le présent cesse d'être importante. Ce qui fait, et d'ailleurs Vasari va l'exprimer avec ces mots-là, que l'histoire devient leçon de vie plus que récit du passé. Elle devient leçon de vie, une sorte d'exemplum, je dirais, pour la vie présente. D'une certaine façon, l'historien qu'est Vasari admet aussi que son lecteur doit se faire son propre jugement sur ce que lui-même écrit. Bien sûr, il impose une vision de l'histoire de l'art, du développement artistique, mais en même temps, il pense que le lecteur, à partir de ce qu'il lui livre comme matériaux, peut encore se faire son jugement personnel, même s'il l'infléchit lui-même très fortement. Je voudrais simplement mentionner un historien contemporain de Vasari, je dis bien un historien, pas un historien de l'art, Francesco Guicciardini, ça s'écrit G-U-I-2-C-I-A-R-D-I-N-I, Guicciardini, qui est un Florentin, plus jeune quand même d'une génération que Vasari. Il était à la fois magistrat, militaire et administrateur au service du pape et de Florence. Et cet auteur est très important pour nous parce qu'à partir de 1534, il rédige une histoire qui devait d'abord être une autobiographie. Ça, c'est très intéressant. Il est passé de l'autobiographie à une histoire plus générale, une histoire de Florence qui va s'étendre de l'année 1494 à 1526. Et cet ouvrage paraît en 1561. Dans cet ouvrage qui est salué, notamment en France, comme un modèle d'une œuvre d'historien, il s'agit effectivement de montrer, de mettre en application comment le choix des faits est une étape première du travail de l'historien. Ensuite, l'ordonnance du matériau, c'est-à-dire on l'organise d'une certaine façon, chronologique ou pas seulement chronologique. Et enfin, le récit lui-même, c'est-à-dire la narration historique. Alors, j'aurai encore l'occasion de parler de l'historien de Florence, mais je reviens à Vasari qui a choisi, lui, la biographie. Au fond, son livre est une succession de biographies, mais de biographies organisées selon trois principaux chapitres. Nous en parlerons. Alors, j'insiste un petit peu sur la biographie comme genre. En réalité, le concept lui-même de biographie ne devient vraiment populaire qu'à partir du XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle. Et on peut dire que, bien sûr, toute biographie, récit d'une vie, est une fiction. Il n'y a personne pour imaginer ou pour prétendre qu'une biographie serait un récit objectif de ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. L'idée même d'une biographie, c'est-à-dire l'idée de prendre pour axe principal d'un récit historique la vie d'un individu, est en elle-même déjà une fiction. Alors, l'idée de la biographie est liée évidemment à la conception de l'individualité. En fait, le récit d'une vie doit apparaître comme exemplaire, soit parce qu'il est imitable, il doit être imité, ou soit au contraire parce qu'il est non recommandable. On s'aperçoit d'ailleurs que la biographie est un genre littéraire particulièrement fréquent dans les périodes de crise. Je prendrai un exemple peut-être connu de tous, je vais prendre l'époque contemporaine. Regardez le nombre de biographies qui peuvent paraître, que ce soit sur des acteurs célèbres, que ce soit sur des hommes politiques, que ce soit sur des personnages historiques, et je dirais même le nombre d'autobiographies ou le nombre d'œuvres littéraires qui paraissent aujourd'hui, qui sont en fait des autobiographies ou qui partent de récits autobiographiques d'écrivains ou d'artistes. On peut dire que peut-être si le genre est si fréquent dans des périodes de crise, c'est parce qu'il constitue aussi une façon d'échapper à la conscience de l'histoire, de se replier peut-être sur son moi intime et de considérer ce moi intime comme le véritable centre et le seul centre à partir duquel le monde et le temps peut-être, peuvent être considérés. Ce goût pour la biographie, je crois, est aussi une façon de revendiquer une subjectivité non critique, non analytique. Dans le cas de la biographie d'artiste, et du coup je reviens donc aussi à Vasari, la biographie d'artiste tend à montrer que l'œuvre s'explique, que l'œuvre explique la vie et que la vie explique l'œuvre. Donc il y a donc interaction entre les deux. Plus cette vie est tragique ou difficile, plus en général l'art apparaît comme un événement qui lie la vie de l'artiste à Dieu ou à une inspiration d'ordre irrationnel. Vous reconnaissez là la naissance d'un mythe, dès le milieu du XVIe siècle, le mythe de l'artiste maudit qui va connaître son apogée au XIXe siècle. Mais tout cela prend racine dans ces vies de Vasari. L'art, je dirais comme une sorte de don divin, quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'art vient d'une inspiration. Le chef-d'œuvre est d'autant plus chef-d'œuvre qu'il échappe en partie à la rationalité de l'artiste lui-même. Mais cela ne peut se produire que chez des artistes qui sont eux-mêmes habités par un destin tragique, ou qui ont à subir un destin particulièrement en contradiction avec la beauté même des œuvres qu'ils produisent. Alors là, nous avons, peut-être faut-il le rappeler, vous y rendre attentif, une opposition évidente entre le projet des commentaires de Ghiberti et ce que fait Vasari. Ghiberti, je vous l'avais souligné avec force, s'intéresse aux œuvres, à la production des œuvres, et s'intéresse à l'expérience visuelle aussi que l'on peut faire devant les œuvres. Vasari prend bien davantage en compte ce que Ghiberti voulait délibérément négliger, à savoir la vie de l'artiste. Comment la vie de l'artiste peut, encore une fois, expliquer d'une manière parfaitement causale la production des œuvres. Maintenant, évidemment, la biographie telle que la pratique Vasari, est aussi elle-même issue de modèles rhétoriques. Toujours, les modèles rhétoriques antiques ont joué un rôle essentiel dans la formation de la biographie de la Renaissance. Trois types de discours, trois formes de discours, trois genres, comme il faut dire, sont à l'œuvre dans les biographies antiques. Alors, il s'agit à la fois du discours comme accusation ou comme défense, qui utilise des procédés issus du genus judiciale, c'est-à-dire d'un genre qui fait appel finalement aux procédures du jugement, du tribunal, si vous voulez. J'accuse, n'est-ce pas, ou je défends la position de celui dont je parle. L'autre modèle rhétorique, c'est la discussion historique qui veut offrir au futur, au lecteur futur, des modèles. C'est ce qu'on appelle en latin le genus deliberativum. Et enfin, le modèle de l'éloge, que l'on appelle le genus laudativum. Il s'agit simplement de faire l'éloge d'un personnage illustre. Alors, dans les modèles antiques qu'utilise Vasari, est déjà opérée une distinction, c'est important, entre la biographie et l'histoire. La biographie et l'histoire. La biographie n'est pas seulement considérée comme un genre particulier de l'histoire, mais parfois s'y oppose aussi. Par exemple, Plutarque, dans ses Vies parallèles, à propos d'Alexandre, dit qu'il n'écrit pas une histoire, mais l'histoire d'une vie. Bon, donc il entre là dans une position historienne qui est bien clairement affirmé. Il veut dire que les batailles et les hauts faits qu'il mentionne sont moins importants que le caractère de l'homme, Alexandre. Donc ça, c'est tout à fait important, cette démarcation opérée par Plutarque ici. Dans le développement de l'histoire comme genre narratif, la biographie est souvent considéré comme permettant de résoudre un problème de l'historien parce qu'elle reprend des formes esthétiques et littéraires. Il y a une tentation bien plus grande qui est à l'œuvre chez le biographe de donner des formes esthétiques parce qu'une vie est elle-même une œuvre. Elle est elle-même construite selon des modalités ou selon des processus qui, de l'extérieur, peuvent être aisément esthétisés. Alors, j'ai déjà dit à propos de Villani que le recueil de biographies s'est répandu à travers l'Europe, notamment par les hommes illustres de Villani, auquel l'auteur donne finalement l'apparence d'une sorte de famille florentine idéale. Mais chez Vasari, ce qui est nouveau par rapport à ses modèles italiens, notamment, c'est cette sorte de, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intensité descriptive. Il a réellement un intérêt profond pour la psychologie de l'artiste. Et il va essayer d'expliquer bon nombre d'œuvres, bon nombre de conflits entre les artistes ou d'oppositions qu'il crée lui-même entre les artistes à partir de la psychologie individuelle. Le tout construit à partir de la même volonté que ses modèles, avec lesquels il les partage, de faire l'apologie de Florence. N'oublions pas que nous sommes toujours dans une modalité, dans un régime qui consiste à illustrer les gloires florentines et à montrer finalement que l'art toscan, et en particulier l'art produit à Florence, va atteindre le sommet de la perfection. Alors, l'importance donnée à la biographie, c'est évidemment, s'explique en partie par l'importance donnée tout à coup à des cycles de développement organique, que connaissait d'ailleurs déjà l'Antiquité. Lucrèce, Pline ou Cicéron les appliquent. Développement organique, c'est-à-dire considérer en effet que la vie d'un homme, c'est-à-dire son enfance, l'âge adulte, la maturité, puis la vieillesse, constitue une sorte non seulement de cycle naturel, mais aussi constitue un modèle, je dirais presque esthétique, par rapport aux sciences de la nature. On décrit aussi la naissance des plantes, et leur mort et leur renaissance. Donc il y a une idée là qui est tout à fait importante de souligner. Mais en fait, la conception qu'a Vasari de l'histoire va être très répandue dans la deuxième moitié du XVe dans la deuxième moitié du XVe et dans la première moitié du XVIe siècle. Au moment où il publie la première édition des Vies, c'est-à-dire en 1550, il n'est en rien novateur de ce point de vue. Je vous ai déjà parlé de Leonardo Bruni dans son étude sur Dante ou de Benedetto Varchi dans l'histoire des langues. Toute cette littérature, y compris celle de Ghiberti d'ailleurs, ou encore celle de Machiavel dans son discours sur Tite-Live, toute cette littérature se réfère à l'existence de cycles. À l'existence de cycles. Et dans l'édition de 1550, nous lisons sous la plume de Vasari déjà cette métaphore biologique où il parle de l'enfance, de la jeunesse et de la maturité de l'art. Vous remarquerez que la vieillesse, la dégénérescence ne sont pas mentionnées. Nous verrons pourquoi. L'enfance est illustrée par Giotto, Arnolfo, dont j'ai déjà parlé, et Nicola Pisano. La jeunesse est illustrée par Brunelleschi, Donatello et Masaccio. Et la maturité est illustrée à son tour par Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange. Donc ces biographies sont regroupées en trois groupes. Chaque biographie est munie d'une introduction où il parle en particulier des types, des genres de découvertes qu'il attribue à l'artiste, quelques exemples de son œuvre et une description du caractère une sorte de description morale de l'artiste dont il parle. Dans cette première version des Vies, puisqu'il y en aura une deuxième en 1568, mais je parle pour l'instant de la première, dans cette première version, il y a un très grand nombre de découvertes techniques et artistiques mentionnées par Vasari, qui montre à la fois son immense culture artistique, sa documentation considérable, et le grand nombre d'événements dont il nous parle pour la première fois. Il n'y a pas de récit antérieur au sien qui les mentionne, prouve à la fois sans doute qu'il s'est servi, bien entendu, de sources qui existaient encore en son temps, qui ont disparu depuis, donc il a dû travailler de première main à partir de sources importantes, elles aussi de première main. En même temps, comment faire la part des récits fantaisistes et la part du vrai, des récits attestés par des témoignages sûrs? Ça, c'est un autre problème. Et nous aurons l'occasion de relever, en effet, plus d'une historiette transformée en légende, qui d'ailleurs souvent a mis plusieurs siècles pour s'éteindre. Vasari n'est pas seulement un grand écrivain, il est aussi l'auteur d'un certain nombre de fables introduites dans son récit historique. Je voudrais encore, avant de continuer la présentation de ces vies de Vasari, vous dire qu'il s'est servi d'un modèle qui va revenir dans ses vies comme une sorte de leitmotiv, un modèle qui nous présente au fond une théorie du beau idéal, une théorie du beau idéal. Et cette théorie est née dans la théorie de l'éloquence parfaite telle que Cicéron l'évoque dans son Orateur. Je lis ce passage, relativement court. « Lorsque Phidias, écrit Cicéron, lorsque Phidias travaillait à la création de son Zeus et de son Athéna, il ne considérait pas un homme quelconque, c'est-à-dire réellement existant, qu'il aurait pu imiter, mais c'est en son esprit que résidait la représentation sublime de la beauté. » Rappelez-vous la façon dont Vasari définissait tout à l'heure le dessin. C'est en son esprit que résidait la représentation sublime de la beauté. C'est elle qu'il regardait, c'est en elle qu'il se plongeait, et c'est en la prenant pour modèle qu'il dirigeait son art. De la même façon, poursuit Cicéron, que le domaine des arts plastiques propose quelque chose de parfait et de sublime, dont il existe une forme purement pensée, et qu'à cette forme sont rattachés par la reproduction que nous en donne l'art les objets qui sont, comme tels, inaccessibles à la perception sensible, c'est-à-dire les êtres divins, de même c'est en esprit seulement que nous contemplons la forme de la parfaite éloquence, et c'est seulement sa copie que nous cherchons à saisir auditivement. Vous avez là, en effet, le modèle de ce beau idéal qui ne serait jamais, après tout, si l'on en croit la définition de Cicéron, en mesure d'être atteint par la représentation ou par l'expression de l'éloquence, mais qui serait néanmoins présent dans l'esprit et vers lequel toute grande œuvre devrait toujours tendre. C'est une clé importante pour la compréhension du livre de Vasari et en particulier de tous les passages où il fait allusion à cet idéal, ce beau idéal vers lequel tend une partie de l'histoire de l'art, mais que n'ont réalisé. Alors, est-ce que c'est sous la forme qu'entend Cicéron ou sous une forme plus aboutie, puisque Cicéron dit qu'on ne peut jamais la réaliser vraiment, mais que dans l'esprit de Vasari, tout de même, quelqu'un comme Michel-Ange aurait parfaitement fait passer dans les œuvres d'art. Je vous remercie.